Bonsoir et bon début de semaine à tous. Human Rights Watch désapprouve l'élection du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. D'après cette ONG internationale, le Rwanda n'est pas crédible pour occuper maintenant ce poste à cause de son soutien aux rebelles du M23 en guerre contre la RDC. Comment analyser cette réaction de Human Rights Watch? Nous, pour en parler, nous recevons comme invité Madame Ida Sawyer, chercheuse chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC. Madame Sawyer, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu, ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris, il est président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, cadre de la majorité présidentielle. Monsieur l'ambassadeur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Lui, il vient d'entrer dans ce studio, c'est l'honorable Justin Bitakwira, député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Honorable Bitakwira, bonsoir.
Bonsoir Guy.
Voilà, merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Assistant Sami Djakongwa de Bounia en province orientale, les Congolais doivent désormais compter sur eux-mêmes. Récuser l'élection du Rwanda n'apportera aucune solution à la crise de l'Est, car certaines grandes puissances ne sont pas prêtes à le lâcher, puisqu'elles lui ont manifesté leur solidarité lors du vote. Patrick de la province orientale, nous Congolais devons cesser de nous plaindre toujours à cause du Rwanda. Il a postulé comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, poste ouvert à tous les pays africains. Et comme il était seul candidat, il a été élu. Pourquoi la RDC n'a pas aussi postulé? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, le jeudi passé, le Conseil de sécurité de l'ONU a accueilli 5 nouveaux membres sur les 10 sièges non permanents que compte l'institution. Il s'agit de l'Argentine, de l'Australie, de la Corée du Sud, du Luxembourg, qui n'a jamais siégé, et du Rwanda pour un mandat de 2 ans à partir du 1er janvier prochain. Mais juste avant le début du vote à l'Assemblée générale de l'ONU, la représentante de la RDC a déclaré que le Rwanda n'était pas digne de siéger au Conseil en raison de son rôle déstabilisateur dans son pays. Charlotte Malenga, au micro de nos confrères de RFI.
En plus de son rôle déstabilisateur de la RDC, le Rwanda constitue aujourd'hui l'oasis de paix pour tous les criminels de guerre qui opèrent dans la partie orientale de la RDC. À ce titre, ma délégation objecte à ce que le Rwanda puisse faire partie du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent.
La ministre rwandaise des Affaires étrangères balaye ses propos d'un revers de la main, Louise Mushikiwabo, une fois de plus au micro de nos confrères de RFI.
On n'a pas été surpris. Il y a beaucoup de frustration du côté congolais, mais vous savez, les crises à l'est du Congo, on n'en est pas la première. En tant que membre du Conseil de sécurité, nous sommes plutôt la valeur ajoutée.
Ida Sawyer, vous êtes chercheuse chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC. Qu'est-ce qui inquiète votre ONG dans cette élection du Rwanda au Conseil de sécurité comme membre non permanent?
Merci. Donc, le Rwanda est maintenant une violation ouverte de l'embargo sur les armes du Conseil de sécurité pour le Congo à travers son soutien militaire important à la rébellion de M23. Aussi, il y a une complicité des officiers supérieurs de l'armée rwandaise dans les crimes de guerre commis à grande échelle par le M23, y compris les exécutions sommaires, le viol et le recrutement forcé. Le Rwanda a également apporté son soutien et donné refuge aux personnes qui sont inscrites sur la liste des sanctions de l'ONU, comme le général Bosco Ntaganda et le colonel Innocent Zimerinde. Donc nous trouvons que c'est un conflit d'intérêts d'avoir un pays qui est en train d'agresser un autre pays à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est aussi un affront aux victimes à l'est du Congo des crimes de guerre commis par les M23 soutenus par les hauts responsables rwandais.
Mais on sait que Human Rights Watch est une ONG britannique qui a beaucoup d'influence. Pourquoi n'avez-vous pas fait pression, par exemple, sur la Grande-Bretagne?
Donc en fait, selon notre mandat, Human Rights Watch, nous ne prenons pas de position pendant les élections du Conseil de sécurité et avant les élections, nous ne plaidons pas pour ou contre les candidatures des différents États membres. Mais nous trouvons maintenant que c'est dommage et ça pourrait avoir un impact négatif avec l'élection du Rwanda.
Mais alors, au niveau de Human Rights Watch, quand vous pensez que le Rwanda ne devrait pas siéger, c'est une candidature qui date d'un certain temps. Et pourquoi n'avez-vous pas commencé à ce moment-là? Ce plaidoyer n'est-il pas tardif?
Donc, je pense que ce n'est pas le travail de Human Rights Watch de le faire, c'est les autres membres de l'Union africaine, le gouvernement de la RD Congo, les autres États qui pouvaient avoir fait une pression aussi bien avant pour chercher un autre candidat.
Et donc, quand vous faites ce genre de déclaration ou quand vous émettez ce genre de réaction, Ida Sawyer, vous vous attendez à quoi?
Donc, nous espérons que maintenant les autres membres du Conseil de sécurité peuvent agir vite maintenant pour que le Rwanda, pour tenir le Rwanda responsable de ses actions, et aussi pour voir si c'est possible de sanctionner les chefs de M23 ainsi que les dirigeants rwandais qui les aident et qui sont aussi complices des crimes de guerre commis par le M23 le plus tôt possible avant que Rwanda prenne ce siège. Et aussi, nous espérons que les pays et les acteurs influents, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et les banques mondiales, devront augmenter la pression sur le Rwanda pour qu'il cesse immédiatement tout soutien aux rebelles. Et nous pensons qu'il y a beaucoup plus d'urgence pour faire quelque chose vite maintenant.
Nous allons prendre pour vous cette réaction de Maître Jean Bouillou, cadre du PPRD.
L'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité ne m'inquiète pas outre mesure. D'autant plus que cette entrée d'un pays qui fait la guerre à d'autres peut ressembler à un cas antérieur, notamment celui de la Syrie, qui, bien qu'étant membre du Conseil de sécurité, a quand même fait l'objet de sanctions. À mon avis, le Rwanda ne sera pas traité autrement que dans le cas de la Syrie. Alors, il y a un inconvénient pour la RDC, c'est d'avoir évidemment un pays qui nous fait la guerre et qui va profiter de sa présence dans ces arcanes du Conseil de sécurité pour faire un lobbying qui pourrait nous être préjudiciable. De ce point de vue, je dirais informel, on peut dire que le Rwanda gagne quelque chose. Mais du point de vue purement formel, ça ne devrait pas influer sur les grandes décisions du Conseil de sécurité. Toutefois, il nous appartient à nous aussi d'élaborer une stratégie combative, une stratégie de lobbying, une stratégie politico-diplomatique qui puisse nous permettre, malgré la présence du Rwanda, de continuer à bénéficier de décisions antérieures et des orientations des enquêtes des Nations Unies concernant le Congo.
Voilà, Ida Sawyer venait de suivre Maître Jean Bouillou, pour qui l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité comme membre non permanent ne devrait pas inquiéter parce qu'il n'y aurait pas de conséquences.
Donc, je suis tout à fait d'accord que ce ne sera pas impossible de mettre une pression vers le Rwanda quand le pays est membre du Conseil de sécurité. Mais je trouve que ce sera beaucoup plus difficile parce qu'ils auront le gouvernement rwandais aura une position beaucoup plus importante dans les questions du Conseil de sécurité, etc. Donc, ça sera plus difficile, mais pas impossible.
Ingénieur Patient Mapendo de Butembo, Nord Kivu, c'est un paradoxe. Le Conseil de sécurité de l'ONU accuse le Rwanda et en même temps le vote à ce poste. C'est curieux. On ne comprend pas quel jeu joue le Conseil de sécurité de l'ONU. On dirait que ces accusations ne font que voiler la face du peuple congolais. Nous sommes fatigués. Ida Sawyer, le Conseil de sécurité a plusieurs fois condamné le Rwanda, la communauté internationale de façon générale également. Vous avez suivi au dernier sommet de la France. Ici à Kinshasa, les États membres ont encore condamné l'agression dont la RDC est victime, mais en élisant le Rwanda, on a l'impression qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de cette communauté internationale.
Oui, je suis d'accord qu'il y a cette hypocrisie. Et c'est ironique d'avoir un pays qui a systématiquement sapé ou rejeté les initiatives de l'ONU depuis des années, d'être maintenant à la table du Conseil de sécurité. Et ça montre, et oui, c'est juste après que le rapport de groupe d'experts des Nations Unies a été donc publié par la presse internationale qui a beaucoup accusé le Rwanda, et juste après, le Rwanda est élu membre du Conseil de sécurité. Donc il y a une hypocrisie.
Et en d'autres termes, le Rwanda aurait un lobbying assez puissant, assez fort, une diplomatie très agissante.
Bien sûr.
Voilà. André Alain Atundu, vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda, diplomate à Paris, président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, cadre de la majorité présidentielle. Comment vous avez reçu cette élection du Rwanda?
D'abord, nous regrettons cette élection qui est en décalage avec l'évolution sur le terrain, occasionnant ainsi confusion et malaise compréhensible au sein de l'opinion, tel que nous venons de le constater ici. Mais en réalité, il faut connaître les arcanes des Nations Unies. Comment on devient membre du Conseil de sécurité, membre non permanent? C'est par entité géographique, par continent, on va dire, n'est-ce pas? Par continent, et dans chaque continent, il y a des sous-régions par rotation. Et donc, ceci s'est passé il y a un peu plus d'un an, in tempore non suspecto, et malheureusement, l'évolution rapide de la situation sur le terrain les derniers mois, eh bien, n'a pas été suivi d'effet par les acteurs africains. Et donc, on condamne, mais ça n'a pas d'effet réel sur le Conseil national, le Conseil de sécurité, parce que il n'y a pas d'autres candidats, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, c'est un problème qui devait d'abord se régler au niveau du continent africain. Et donc, en réalité, ce qui est arrivé aujourd'hui n'est que logique et compréhensible. Ça, c'est en tant que technicien. Mais en tant que Congolais, ceci est regrettable, et d'autant plus que cette lourde machine, finalement, ne donne pas l'impression de servir la cause de la paix de façon prompte et adéquate. Voilà, on va dire ça comme cela. Mais ceci dit, le Rwanda va certainement profiter de la rente de situation. Le fait qu'il est dans le lieu de décision, d'élaboration de décision, ça va augmenter sa capacité de lobbying. Il sera en contact avec les membres permanents de façon, disons, escalité et au nom d'un certain nombre de pays, et ça va un peu augmenter son poids. Alors, nous, le Congo, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons d'abord le lobbying, effectivement, à l'intérieur aussi, parce que, quoi qu'il en soit, le comité des ambassadeurs africains des Nations Unies, mais c'est quand même l'organe d'inspiration, si je puis ainsi m'exprimer, et là-dedans, nous sommes membres, et avec le plus grand nombre des gens pour nous, comme cela est apparu à la francophonie.
Apparemment. Donc, théoriquement.
Non, pas théoriquement. Je vous ai dit, c'est la lourdeur administrative de la mécanique des Nations Unies. Mais aujourd'hui, tous les États ont dit, voilà, pour nous, c'est le Congo à travers l'OIF. Ce qui se passe aux Nations Unies, c'est quoi? C'est comme si vous avez donné des consignes à votre ambassadeur de voter, et qu'il a voté alors que vous avez des consignes qui ont suivi mais qui n'ont pas été enregistrées à temps. Donc c'est un peu cela, si je peux me faire comprendre. Mais il s'en sert à rien de se plaindre. Lorsqu'une situation, vous vous trouvez devant une situation que vous n'avez pas pu complètement contrôler, il faut voir comment réagir. Aujourd'hui, le président Kabila est pendant 2 ans le président de l'OIF. Et donc le Congo et son président deviennent des acteurs majeurs de la politique international. Et donc, l'OIF, je crois, est membre observateur à l'ONU, est consulté et agit sur le terrain. Et si le Rwanda peut se glorifier ou se réjouir d'être membre du Conseil, membre non permanent, eh bien...
C'est une valeur ajoutée, comme a dit Madame Louise Mushikiwabo.
Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une situation statutaire, c'est une rente des situations. Mais Mais nous aussi, nous avons, vous savez, le chef de l'État, le président Kabila, a l'obligation d'assurer l'exécution ou le bon suivi des résolutions prises au sommet de l'EIF ici, jusqu'au sommet de Dakar. Et là-dedans, il y a la résolution sur l'Est du Congo. Et donc, nous sommes à quelque part à égalité. Et donc, cela dépendra de la capacité de notre diplomatie, de son intelligence stratégique, de sa réaction proactive, de sa promptitude et de sa capacité de projection.
Alors, prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu pour vous.
L'idée de Bukavu au Sud-Kivu. C'est regrettable que Human Rights Watch se soucie à notre place. L'élection du Rwanda au Conseil des Nations Unies prouve que la solution diplomatique a échoué. Un budget additionnel doit être conçu par le gouvernement congolais et voté par notre Parlement pour renforcer l'armée. C'est la meilleure solution pour déjouer ce jeu de cache-cache des Nations Unies.
Coup dur hein, pour la diplomatie congolaise.
Non. Si il y a une voix qui n'échoue jamais dans une situation de conflit, c'est la voix diplomatique. Parce que tout conflit, toute guerre, pour se terminer correctement, se termine autour d'une table. C'est ça la diplomatie. Même la Syrie aujourd'hui, l'acteur Brahimi est là, et pendant qu'on se bat. Donc qu'il se décourage pas, parce que nous avons la diplomatie, nous avons les moyens militaires, nous avons les moyens politiques et nous nous battons, nous avons la volonté et la détermination de nous battre.
Honorable Justin Bitakwira, vous êtes député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Comment vous avez reçu cette élection du Rwanda? Vous avez suivi Ida Sawyer de Human Rights Watch et l'ambassadeur Atundu.
Oui, il faut d'abord que je dise que je salue tous les éditeurs de Radio Okapi et personnellement, félicité. Human Rights Watch, qui, quelques heures après la désignation du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité, a haussé le ton, en lieu et notre place, tant du côté du gouvernement ou autres décideurs du pays, personne n'a levé le doigt.
Même pas du côté de l'opposition.
Et du côté de l'opposition, nous avons fait une déclaration, peut-être qu'elle ne vous est pas parvenue. Et il faut que je dise d'abord, tel que je vois la répartition de temps, vous donnez à chacun à peu près 15 minutes, je suis en train de le régler. Il faut d'abord que je dise que c'est un échec patent pour notre diplomatie. Et nous n'avons jamais cessé de le dire. Qui négocie pour la RDC sur ce conflit de l'Est? Qui négocie? Ceux qui négocient maîtrisent-ils tous les paramètres et tous les contours de ce conflit? Parce que je dois vous rassurer ici que ça fait plus de 10 ans que nous sommes autour de ce conflit. Tous les enfants d'Ituri ou du Kivu ont été exclus systématiquement dans toutes les négociations sur la crise de l'Est. Je vous l'ai dit et je sais de quoi je parle. Deux, c'est la duplicité de la communauté internationale. Duplicité, parce que j'ai considéré, que nous le voulions ou pas, le Rwanda est un pays voisin. L'histoire et la géographie nous condamnent à vivre ensemble. Mais cependant, la communauté internationale doit considérer que le Rwanda est dans la même situation que le Libéria de Charles Taylor, qui a occasionné des morts et des morts en Sierra Leone. Et aujourd'hui, Charles Taylor est à La Haye. Maintenant, faire la promotion du Rwanda, aujourd'hui, jusqu'à être membre non permanent du Conseil de sécurité, par un vote aux Nations Unies, pas au Conseil de sécurité, mais à l'Assemblée générale des Nations Unies, ça signifie effectivement qu'on se moque du sang congolais, que les conflits générés et qui impliquent le Rwanda, si pas aussi dans la moindre mesure l'Ouganda, on se moque du sang congolais qui est en train d'être versé. C'est la raison pour laquelle je dis ici que je voudrais m'adresser à travers ton micro au Rwanda, à l'Union africaine, au gouvernement congolais et à la communauté internationale. Que chez moi, dans mon patois, je vais traduire, on dit « Hamwa mwamba halirwa manini, hamwa ndayuvwa halirwa kimbombo ». Ça veut dire qu'on nous considère comme réellement un pays à genoux complètement, et sur le plan militaire, et sur le plan de tous les citoyens, 70 millions de citoyens congolais, on nous considère comme à genoux et que nous ne sommes capables de rien. C'est ainsi que nous avons profité la fois passée du micro de l'Assemblée nationale pour dire qu'effectivement, on ne joue pas avec la guerre. Soit ceux qui vous font la guerre vous destituent, soit ceux qui subissent les atrocités de cette guerre se posent la question qui va nous défendre. Donc, nous sommes ici en face d'un complot de la communauté internationale qui dit qu'effectivement, même si les Congolais mouraient à 1 000, à 1 million, à 100 millions, ce sont des mouches qui mouraient. Donc, pour nous, nous disons la duplicité, elle est qualifiée. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement congolais qu'il faut renforcer la légitimité du pouvoir. Il faut renforcer la cohésion interne. Parce que ce à quoi nous faisons face, ce n'est pas une question de l'opposition ou de la majorité, c'est l'essor du Congo qui se dessine.
Une question nationale. Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous, honorable Bitakwira.
Chef de travaux, Jean-Bernard Mibé Koumissia, Mbandaka, province de l'Équateur. Il est vraiment regrettable qu'un pays qui sème la désolation soit ainsi gratifié. C'est vraiment la promotion des antivaleurs. Au lieu d'être sanctionné, le Rwanda se voit attribuer un siège au Conseil de sécurité. Va-t-il promouvoir la sécurité ou l'insécurité? C'est aussi une occasion pour nous, Congolais, de comprendre qu'entre États, il n'y a que des intérêts. Nous devons nous battre pour avoir une place au soleil. Sinon, nous allons disparaître.
Voilà, il a abondé dans le même sens que vous, mais je prends la dernière assertion de sa réaction. C'est aussi une occasion pour nous, Congolais, de comprendre qu'entre États, il n'y a que des intérêts. Vous avez parlé de la duplicité de la communauté internationale, honorable Bitakwira. La RDC s'est-elle laissée duper dans les différents sommets, dans les différentes conférences?
Oui, d'abord, il faut que je dise aux Congolais que nous ne sommes pas le premier pays à subir ce que nous sommes en train de subir. C'est vrai, je réponds à cet intervenant de Mbandaka pour lui dire que nous partageons tous l'humiliation, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, qu'on soit indépendant ou pas. Mais le Japon a occupé la Chine, a humilié la Chine pendant 109 ans. Mais aujourd'hui, la Chine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est économiquement, politiquement, militairement au-dessus du Japon. Donc moi, je considère, et c'est un conseil que je donne au Rwanda, un pays que je connais très bien, je parle au minimum leur langue pour leur dire qu'il faut pas que le pouvoir actuel de Kigali laisse comme héritage un conflit entre Congolais et Rwandais. Donc, nous pensons effectivement, et c'est ça notre plan de sortie de crise, que le Rwanda doit comprendre qu'il n'occupera pas un millimètre carré du sol congolais. Autant, et il jouit de la sécurité de ses citoyens et de ses biens, nous devons partager cette sécurité même au niveau du Congo. Donc bref, je voudrais dire effectivement, il faut que je sois clair là-dessus, pour dire qu'il est grand temps que le Rwanda comprenne. C'est pourquoi je dis qu'effectivement, tout est tu, perd plus. Et celui qui reste comme muet, il perd moins.
Merci.
Donc il arrivera un moment où le Congo va se réveiller. Et d'ailleurs, si dans les 3 mois, 6 mois, 1 an qui suivent, la situation reste la même, je suis sûr que les Congolais s'assumeront.
Voilà. Ida Sawyer, partagez-vous l'idée d'un complot international?
Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y avait quand même quelques réussites, avec le fait que plusieurs pays ont dénoncé le soutien extérieur aux rebelles de M23, quelques pays ont coupé ou ils ont suspendu leur assistance financière ou militaire au Rwanda, y compris les États-Unis et d'autres pays. Le Rwanda, depuis très longtemps, était impliqué dans les guerres à l'est du Congo et impliqué dans les massacres des civils congolais depuis des années, et la communauté internationale, jusque cette année, ils ont presque rien fait et ils n'ont pas reconnu ce soutien rwandais aux rebelles à l'est du Congo. Donc je pense que c'est encourageant que finalement la communauté internationale commence à reconnaître l'implication de Rwanda aux crimes qui sont commis à l'est du Congo. Mais c'est clair aussi qu'il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, le soutien rwandais aux rebelles à l'est du Congo continue. Il y a toujours des militaires rwandais déployés présents dans les territoires congolais pour soutenir les rebelles de M23. Donc, c'est clair qu'il reste beaucoup plus à faire pour la communauté internationale de mettre une vraie pression au Rwanda pour que ce soutien cesse.
Alors, on a suivi Maître Jean Bouillou tout à l'heure qui évoquait le cas de la Syrie, qui est membre non permanent, mais qui fait face à certaines sanctions du Conseil de sécurité. Le Rwanda n'est donc pas à l'abri autant qu'on le croit.
Oui, donc comme j'ai dit avant, ce n'est pas impossible de mettre une vraie pression ou mettre des sanctions vers le Rwanda comme Rwanda est membre du Conseil de sécurité. Mais c'est très difficile. Normalement, dans le comité des sanctions, dans le Conseil de sécurité, tous les membres doivent être d'accord avant de mettre les sanctions vers les individus. Donc, normalement, s'ils suivent les pratiques régulières, le Rwanda doit être d'accord avant que quelqu'un sera sanctionné par le Conseil de sécurité.
Alors, on a suivi le président français François Hollande au cours de son allocution au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa parler de la réforme du Conseil de sécurité. Était-ce le moment d'en parler?
Donc en fait, c'est hors du mandat des Human Rights Watch de parler de réforme de sécurité. Mais je pense que la situation aujourd'hui avec Rwanda comme membre du Conseil de sécurité montre qu'il y a beaucoup de problèmes de hypocrisie et duplicité, etc. dans le système des Nations Unies.
Et bon, au niveau de la RDC, du point de vue de Human Rights Watch, la diplomatie est-elle encore une solution?
Je pense qu'il faut vraiment augmenter les efforts de diplomatie. Il y avait quelques réussites parce que quand même quelques pays ont reconnu la réalité à l'Est et le soutien de Rwanda aux rebelles de M23, mais il reste beaucoup plus à faire.
Mais visiblement, on a toujours l'impression que c'est plus un problème d'intérêt, la situation de la RDC, on s'en fout entre guillemets, permettez-moi l'expression. Quand on vous compare, on parle souvent également du Mali dans cette émission, à voir la manière dont la communauté internationale réagit par rapport au Mali et par rapport à la RDC, on a l'impression que c'est deux poids deux mesures.
Oui, je pense que c'est toujours difficile. Donc, de notre côté, nous continuons à dénoncer, à documenter ce qui se passe et nous faisons le plaidoyer, mais ce n'est pas souvent facile à convaincre les États influents.
Monsieur l'ambassadeur, à Tundu, la RDC s'est-elle laissée berner à travers les différents sommets, différentes rencontres?
Bon, je ne pense pas.
Où était-elle distraite?
Non, non, ni distraite ni bernée. Mais je voudrais d'abord dire à l'honorable que ce n'est pas l'opposition qui a commencé par réagir. C'est l'adjointe, notre représentante adjointe à l'ONU qui gouverne au nom du gouvernement a réagi. Mais vous savez que c'est une réaction, j'allais dire presque protocolaire, parce que connaissant le mécanisme des Nations Unies, il a fait juste une déclaration d'intention en disant que nous regrettons, nous ne sommes pas d'accord, etc. Et donc ça ne sert à rien, n'est-ce pas, en toutes circonstances, opposition, majorité, ce qui est bien, c'est seulement ce que nous faisons. Non. Bon, il a fait allusion à la guerre de 109 ans, le Japon aujourd'hui, Taylor, etc. Mais le temps compte, pas le temps heure, le temps cycle. Taylor a eu le temps d'être président de la République. Et puis dégommé, n'est-ce pas? 109 ans, ce n'est pas 10 ans. Donc tout simplement, ceci veut dire que toute solution durable doit tenir compte du temps et de la mutation des intérêts stratégiques. Aujourd'hui, le Congo représente un intérêt stratégique beaucoup plus important que le Rwanda. Pourquoi? Parce que tous les minerais qui passaient par le Rwanda, exploités au Congo, sont aujourd'hui qualifiés de minerais de sang. Minerais de guerre. Et vous savez, il y a une sorte d'embargo qui frappe cela. Et donc, les États qui voudraient ne plus être en porte-à-faux avec la communauté internationale, eh bien, se rangent sur cette voie-là. Ça, c'est de 1. 2. Il n'est pas exact de dire que la situation du Mali, la communauté internationale s'intéresse plus à la situation du Mali.
Du moins, c'est l'impression.
Non, c'est une fausse impression. Parce que ce disant, nous oublions que nous avons 20 000 personnes de la MONUSCO ici. C'est la communauté internationale. Nous oublions que l'OIF a condamné. C'est la communauté internationale. Nous oublions que l'Union européenne a coupé les vivres. C'est la communauté internationale. Les États-Unis, etc.
Mais certains ont repris leur coopération après ça aussi.
En partie. Écoutez, à la limite, même si la Grande-Bretagne reprenait tout, eh bien, les autres, l'Union européenne a fait après. Donc, on ne va pas entrer sur cela. Bon, mais ceci dit, le Congo, en se rendant à Addis Abeba, à Kampala et n'importe où encore, ne s'est pas berné et n'est pas distraite. Suivez l'histoire du monde. Aujourd'hui, la Syrie est en guerre. N'est-ce pas, on va dire, avec la communauté internationale. Mais le pape va s'y rendre. L'acta Brahimi s'y rend. Et d'autres intermédiaires. Donc il faut toujours dialoguer. Et comme l'a dit Nelson Mandela, pour avoir une victoire durable, il faut savoir parler à l'adversaire. Et ça, le Congo sait parler à l'adversaire. Le Congo sait parler au Rwanda. C'est parce que le Congo sait parler au Rwanda et à la communauté internationale, qu'aujourd'hui le Rwanda est pratiquement mis au banc des accusés.
Je reprends cette réaction que j'ai lue dans le sommaire. Assistance à Midja Congo de Bounia, province orientale. Les Congolais doivent désormais compter sur eux-mêmes, monsieur l'ambassadeur Atum.
Absolument. Mais nous n'avons pas démissionné. Nous n'avons pas dit, comme notre armée ne parvient pas à mettre fin immédiatement à la guerre, eh bien, c'est l'ONU qui va se battre, la MONUSCO qui va se battre pour nous, c'est l'Angola. Non. Nous nous battons. Et la situation que nous vivons ici, il est toujours bon d'avoir un regard environnemental. Les situations de mutinerie, de rébellion, prospèrent toujours parce qu'ils trouvent une matrice. Aujourd'hui, si la situation continue à perdurer au Pays Basque, c'est parce qu'il y a une bonne matrice. Si la situation continue à perdurer en Corse, c'est parce qu'il y a une matrice. Si les Rwandais n'ont pas prospéré ici à Kinshasa, où ils étaient jusqu'à Tiangou, c'est parce que le milieu n'est pas propice. Donc, il nous faut mettre du temps, mobiliser tout le monde derrière la stratégie du chef de l'État et n'est pas proposé une autre stratégie parce que démocratiquement, c'est le chef de l'État qui est le garant et c'est le soutenir qui est faire œuvre de patriote.
Honorable Bitakwira, réaction.
Eh oui, effectivement, quand des multinationales passent par le Rwanda pour acquérir des minerais exploités en République démocratique du Congo, que l'ambassadeur qualifie de minerais de sang ou de guerre.
C'est pas moi, c'est la communauté.
Et que le Rwanda est aujourd'hui gratifié à la face du monde. Ça doit nous interpeller tous. Et d'ailleurs, le Rwanda doit comprendre qu'il faut qu'il continue encore davantage à exploiter plus. Parce que plus il menace, plus il reçoit. Donc ici, je voudrais dire que nous devons avoir d'abord le même langage sur ce qui nous arrive. Et à cet instant même où je parle, je me sens habité par l'esprit de M. Laurent Désiré Kabila, qui demande au peuple, prenons-nous en charge. Et effectivement, les héritiers de Kabila qui sont au pouvoir, ils n'appellent pas au peuple de se prendre en charge. Jamais, aucune fois. D'ailleurs, quand je le dis comme ça, ils vont dire, bon, c'est un radical qui parle. Non, je dis, même si notre armée est défaite, hier, aujourd'hui ou demain, la résistance du peuple congolais surprendra le monde entier. Et c'est à ce jour-là que la communauté internationale viendra pour nous dire, non, arrêtez d'abord. Je vous ai donné un proverbe de mon patois, ce que je ne vais pas répéter.
Mais
je voudrais insister.
Vous parlez de la résistance populaire, honorable Bitakwira, mais avant ça, vous avez évoqué la question de la cohésion nationale.
Effectivement, j'ai dit que nous devons avoir le même langage. Il ne faut pas que d'un côté, le pouvoir parle des forces obscures, parle des forces négatives, un membre du gouvernement cite le Rwanda, nommez-moi. Donc nous ne pouvons pas nous comporter comme à la tour de Babel, où nous ne savons pas quel langage nous utilisons. Si réellement c'est le Rwanda qui est notre agresseur, tous Congolais, du plus grand au plus petit, nous devons dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais je dis, j'insiste, et c'est peut-être là où je donne raison à l'ambassadeur, pour dire que quel que soit l'agression, quel que soit le degré de tuerie, on ne peut pas arrêter le dialogue. Et le dialogue qu'on peut faire avec le Rwanda, c'est pour lui dire, le Rwanda doit comprendre qu'il ne doit pas passer par la fenêtre. Il doit passer par la grande porte, il doit toquer au Congo, et que nos relations soient des relations gagnant-gagnant. Ça, nous l'avons dit plusieurs fois. Deux, la cohésion interne en République démocratique du Congo. Faut-il que on s'approche toujours de ceux qui prennent les armes, on ne peut pas créer une cohésion politique interne. Et c'est là où j'ai parlé du renforcement de la légitimité. Il y a des élections qui se sont passées dans ce pays qui ont laissé du couac. Le couac là, on fait abstraction, comme si rien ne s'était passé. On parle de la restitution de la CENI aujourd'hui. Ça fait blocage, je vous l'ai dit. Ça fait blocage. Parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et pourtant, nous disons qu'avec la cohésion nationale, il faudrait qu'on donne les chances à tous, démocratiquement, de gagner ou de perdre. Au même degré. Enfin, c'est peut-être mon avant-dernier mot, je voudrais insister ici pour dire que nous tous, nous sommes propriétaires de la République démocratique du Congo. Nous ne l'avons confiée à personne, ni à une partie de la population pour dire, c'est tout ici, ça vous appartient. Nous nous attendons. Et ceux qui ont suivi le discours du président sénégalais, Macky Sall, ou du président tunisien, mais nous sommes un grand peuple. Mais on ne peut pas dire qu'en gagnant les élections, on s'accapare de tout. Nous ne voulons pas le partage du pouvoir, pas du tout, mais nous voulons que tous les Congolais, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos dissensions, qu'on s'asseye, qu'il y ait un dialogue, sans parler du pouvoir, pour dire, comme les animaux malgré la peste, qu'est-ce qui nous est arrivé?
Alors, honorable Bitakwira, sur le plan international, je vous demanderai d'y répondre en un mot. Cette élection du Rwanda ne pose-t-elle pas le problème de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Oui, nous avons quand même suffisamment d'informations par rapport à la désignation du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous avons suffisamment d'informations. Au fait, c'est la sous-région africaine qui, il y a un an, a proposé le Rwanda. Mais nous savons effectivement que nous avons un déficit diplomatique en République démocratique du Congo. Savez-vous qu'entre autres personnalités de l'Union africaine, le Rwanda occupe une place de choix? Savez-vous qu'il y a certains postes dans les structures internationales où le Rwanda occupe les postes même de la République démocratique du Congo? Donc, nous devons nous asseoir. Il est l'ambassadeur. C'est un ancien.
Merci.
Patron de services de sécurité. C'est un ancien patron. Il sait comment ça fonctionne.
Merci. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je vous avais demandé une réponse en un mot. Ida Soyor, je rappelle que vous êtes chercheuse chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC. Le président Joseph Kabila, dans son discours, a souvent mis l'accent sur les trois pistes, la piste diplomatique, militaire, politique. En ce qui concerne la piste diplomatique, vous avez dit qu'il fallait la renforcer. Quelle est la perception de Human Rights Watch sur la piste, sur les pistes militaires et politiques?
Donc, nous, à Human Rights Watch, nous pensons que c'est fort probable qu'il y aura des aspects militaires et politiques dans la recherche à la solution à la crise à l'est du Congo. Mais nous pensons aussi que c'est très important d'avoir aussi un aspect en volet judiciaire dans la réponse du gouvernement à la crise à l'est du Congo pour montrer que le gouvernement est sérieux à trouver une solution durable et mettre fin à le cycle de l'impunité. Et nous pensons que ça va venir seulement si les responsables pour les graves violations des droits de l'homme soient amenés à la justice. Il faut montrer que les chefs rebelles et les criminels de guerre ne seront pas seulement récompensés avec les grades, les pouvoirs, la richesse, le contrôle des minéraux, etc., mais qu'ils seront traduits à la justice. C'est comme ça qu'on peut trouver une vraie solution à l'est du Congo. Donc nous sommes encouragés par les mots du président Kabila et les autres du gouvernement qu'il veut maintenant arrêter Bosco Ntaganda et les traduire à La Haye, où il est recherché par la Cour pénale internationale, et aussi qu'il ne veut pas négocier avec les autres leaders de M23 qui sont responsables pour les graves crimes, les graves violations des droits de l'homme. Mais il faut maintenant suivre ces mots avec des actions et des actions claires pour montrer qu'ils sont sérieux et qu'ils veulent avoir la justice, ils veulent que ces gens soient arrêtés et jugés.
Alors, il faudrait que le gouvernement mette fin au cycle, notamment d'impunité, et qu'il suive ses paroles d'action, notamment ne pas négocier avec le M23, mais on a suivi pendant le sommet de la francophonie, Vital Kamerhe, leader de l'UNC, le parti dont l'honorable Bitakwira est membre, dénoncer déjà certaines négociations entre le gouvernement et le M23. Si jamais cela devrait arriver, quelle serait votre position?
Nous serons contre l'idée de négocier avec ceux qui sont responsables pour les graves crimes de guerre, les graves violations des droits humains. On pense que pour les leaders comme Colonel Makenga, Zimerinde, Baudouin, Kaina et Bosco Ntaganda, ils ne sont pas des gens avec qui le gouvernement doit négocier ou doivent laisser rentrer encore dans l'armée congolaise. S'ils sont intégrés encore, je pense qu'on verra seulement une répétition de ce qu'on a avoué pendant les dernières quelques années avec l'intégration du CNDP et Bosco Ntaganda dans l'armée, où ils ont continué leurs exactions et finalement ils ont quitté l'armée pour commencer une autre rébellion.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, il nous reste moins de 5 minutes. Nous allons déjà atterrir. Faudrait-il reformer le Conseil de sécurité? Cette question est-elle à l'ordre du jour aujourd'hui?
Mais absolument. Et même le secrétaire général de l'OIF a planché là-dessus pour dire que l'Afrique devait être plus présente dans les débats où se prennent les décisions, notamment au Conseil de sécurité et à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. Le monde a évolué.
Mais l'Afrique en a-t-elle les moyens? Se donne-t-elle les moyens pour ça?
Ah oui, d'abord les moyens politiques et la volonté politique. La volonté politique, c'est le premier moyen, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des petits pays qui ne valent rien du tout, mais grâce à la volonté politique, ils sont aujourd'hui membres de l'ONU, ils sont reconnus, etc. Et je crois que c'est un besoin qui dépasse l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique qui a besoin d'être représentée. Il y a les autres continents africains, les autres continents du monde, n'est-ce pas? L'Amérique, l'Asie, etc.
Mais le grand combat resterait au niveau du droit de veto.
Mais c'est ça. Parce que le droit de veto a quelque chose d'injuste. Puisque nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Mais pourquoi d'autres devraient avoir plus de droits qu'un autre? Évidemment, ce sont là les survivances de la guerre, de la fin de la guerre. Mais aujourd'hui, la guerre est terminée, même la guerre froide, il y a une sorte de réajustement ou des rééquilibrages nécessaires. Il faudrait peut-être fédéraliser la gestion du monde aujourd'hui. Les réalités en Afrique sont différentes des réalités en Asie. Mais je voudrais surtout dire, pour conclure, n'est-ce pas, en guise de conclusion, que la cohésion nationale existe et elle doit se faire derrière le mot d'ordre du président de la République.
Merci.
N'est-ce pas, la discipline républicaine doit exister.
Merci.
Le gouvernement ne négocie pas. Les rebelles, ils cherchent des contacts partout.
Merci.
N'est-ce pas?
Merci. Honorable Bitakwira, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ce qu'on peut retenir est que la cohésion interne dont parle Atundu Luyongo, il doit retenir que pendant les 14e sommet de la francophonie et que tous les chefs d'État qui ont défilé ici, en même temps ils ont rencontré le chef de l'État, en même temps ils ont rencontré les différents chefs de l'opposition. C'est un message. De deux, pour terminer, je répète, mais je vais traduire, je répète mon adage. Et les Barundis disent, les Rwandais qui me suivent, ils vont comprendre de ce que je voudrais dire. Les Barundis disent, Wanga Bangwe, ndi Wanga Zanadabe.
Alors,
quand vous vous battez, on essaie de vous dire, arrêtez, ne vous battez pas. Vous refusez de vous faire arrêter. Mais vous ne refusez pas de vous montrer comment on vous a arraché un œil ou une oreille.
Ida Sawyer, en guise de conclusion, qu'est-ce que Human Rights Watch pense? Nous avons suivi plusieurs auditeurs se demander si vous espérez quelque chose par rapport à cette démarche.
Oui, donc nous espérons que malgré l'élection du Rwanda comme membre du Conseil de sécurité, nous espérons que les autres membres du Conseil de sécurité et les autres pays et acteurs influents, ils ont maintenant d'autant plus la charge de tenir le Rwanda responsable de ses actions le plus vite possible. Donc nous espérons que la pression puisse augmenter pour que le Rwanda cesse immédiatement leur soutien aux rebelles de M23 et aussi pour que le leader de M23 et ceux qui les soutiennent soient sanctionnés le plus vite possible. Mais on pense aussi que c'est important que le gouvernement congolais montre qu'ils sont prêts à coopérer et amener ceux qui sont les plus responsables à la justice.
Merci Ida Sawyer. Je rappelle que vous êtes chercheuse chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC. Je recevais également l'ambassadeur André Alain Atundu Luyongo, ancien ambassadeur au Rwanda, diplomate à Paris, président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, cadre de la majorité présidentielle. Également, je recevais l'honorable Justin Bitakwira, député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Cette émission est terminée pour ce soir. Merci de votre attention. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.